Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cette foire aux questions numéro 8, où on va parler un peu de l'étrange période que nous sommes en train de traverser, puisqu'il y a une incertitude politique forte, et en même temps, il y a cette trêve que les Jeux Olympiques ont imposée par eux-mêmes, c'est-à-dire que le spectacle est au rendez-vous, on a envie de regarder ces jeux selon les disciplines que l'on goûte. Il y a celles qu'on goûte moins, mais il y en a quelques-unes qui étaient intéressantes. Moi, j'étais fasciné par la finale du rugby à 7, par exemple. Mais il reste quand même un gros point d'interrogation sur tout simplement l'avenir politique de notre pays à partir du 15 août, du 20 août. Hein, il faudra prendre une décision. Que va décider Macron? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la préparation du budget. Voilà, donc je vous propose un petit peu de parler de tout ça et d'essayer d'évoquer un certain nombre de pistes qu'on voit se dessiner petit à petit. Et je suis sûr que Maxime a déjà identifié quelques questions.
Ben alors déjà, on va rappeler le concept, Serge. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est une foire aux questions en direct. On est ensemble pendant une heure et demie. S'il y a quoi que ce soit, d'ailleurs au niveau technique, des petits soucis, ça peut arriver, n'hésitez pas à nous le dire. Donc posez vos questions directement dans le chat YouTube. Hein, vous êtes habitués parce que Serge, c'est la huitième déjà qu'on fait. Et on y répondra du mieux qu'on peut. Voilà. Est-ce que Serge, tu as déjà vu une question ou je prends directement?
Me prends directement. J'ai pas vu de questions particulières. On peut peut-être revenir une seconde sur la cérémonie d'ouverture. Bon, comme chacun y va son opinion, vous m'autoriserez à dire rapidement ce que j'en pense. Je pense que la prestation artistique était de très haut niveau et j'ai pas boudé mon plaisir. Et je pense que la réalisation télévisuelle, on va dire, était complètement ratée, des plans sans imagination. Alors, à la décharge du réalisateur, apparemment, un certain nombre de caméras sont tombées en panne du fait de la pluie, mais c'était d'une pauvreté, surtout d'un manque d'imagination dans l'utilisation des caméras qui était assez désespérant. Bon, et puis alors il y a la polémique autour de la scène, enfin de la séquence, du tableau qui a été d'abord compris comme représentant la scène, qui finalement ne l'est pas, puisque c'est un tableau du XVIIe siècle d'un peintre hollandais que je ne connaissais pas et qui s'appelle Le Festin des Dieux, avec Philippe Catherine dans le rôle de Bacchus. Bon, moi, je veux dire, d'une part, ça ne m'a pas choqué. Et deuxièmement, j'aimerais bien profiter de l'occasion pour rappeler quand même ce point fondamental, de la République, c'est que la République est laïque, c'est-à-dire que elle protège tous les cultes, sans distinction, elle assure, elle garantit, elle préserve la liberté de croyance ou de ne pas croire d'ailleurs, mais on peut critiquer les dogmes, on peut se moquer des religions. C'est le grand acquis finalement de la Révolution française, c'est cette capacité et de la loi de 1901, c'est cette capacité à distinguer ce qui est de l'ordre de la pratique religieuse qui doit être assurée, garantie, défendue, préservée et en même temps la liberté de critiquer, de brocarder les cultes. Et en l'occurrence, j'ai trouvé la réaction de l'épiscopat assez déplacée. J'étais très surpris, je dois le dire, par la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui trouvait que bon, ça choquait inutilement des croyants.
On avait une question d'ailleurs sur le chat là-dessus, là.
J'étais très étonné parce que ça ne correspond pas au Jean-Luc Mélenchon que j'ai toujours connu, toujours lu en tout cas. Je pense à ce qu'il disait au moment de Charlie, donc j'étais un peu étonné de ce discours, mais on pourra y revenir le cas échéant. Voilà, je referme la parenthèse. Donc il y avait quelqu'un qui demandait si il était vrai que Macron avait été sifflé. Bah, écoutez, je n'en sais rien, enfin en tout cas j'en sais pas plus que vous parce que je suis devant ma télé.
Et
Donc
puis c'était très protocolaire, c'était à toute fin de la cérémonie, je sais pas si tu te souviens, il déclarait ouvert l'Olympiade. C'est vrai qu'au niveau de la réalisation, il y avait des plans flous sur la Tour Eiffel, j'ai beaucoup pensé à toi d'ailleurs. À ce moment-là, c'était magnifique, mais c'était un peu flou. Et c'est vrai que moi, j'ai pas entendu de huée, mais j'ai pas vu de vidéo sur place non plus. Donc on avait une question là-dessus, et c'est vrai qu'on peut pas y répondre parce que ouais, on n'était pas sur place, quoi, tout simplement. On a beaucoup de questions, Serge, sur Lucie Castet.
Oui.
Hein, bien évidemment, donc la candidate du nouveau Front populaire au poste de première ministre. Tout simplement, question de Bob Alban qu'on salue, qui est un abonné régulier de Pure Politique. Pensez-vous que Macron va nommer Lucie Castex première ministre, ou alors plutôt essayer de séparer la France insoumise du reste pour continuer de gouverner avec le camp républicain?
Alors, on va prendre la question en deux temps. L'arithmétique guide un petit peu la démarche politique en ce moment. Par exemple, la tribune de Pascal Canfin, qui représente encore ce qui reste ou ce qui subsiste de l'aile gauche du macronisme, était éclairante. C'était dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier. Elle était éclairante parce que finalement, elle dit la seule alliance possible sur le papier, ce serait le nouveau Front populaire sans la France insoumise et les macronistes, parce que ça permet d'avoir à... Alors, il manque deux voix hein, quand même, mais ça permet d'avoir presque une majorité absolue. Et donc, il propose hein, une espèce de pacte qui s'établirait sur une dizaine de réformes, plus exactement une feuille de route pendant une année entre... Donc trois forces, quatre forces, les communistes, les socialistes et les écologistes, et les macronistes, qui se mettraient d'accord donc sur oui, une dizaine de points, moyennant quoi ils s'engageraient les uns et les autres à ne pas déposer de motion de censure. Voilà. Et tout ça conduirait jusqu'à juillet 2025. Bon. Alors c'est une tentative, hein, c'est comme ça, c'est un ballon d'essai. Je pense qu'il se trompe parce que il y a une réalité quand même qui structure tout le reste, c'est que aujourd'hui à gauche, il y a une bataille pour l'hégémonie sur la gauche et que dans cette bataille, le Parti socialiste est incontestablement dynamique. Pour une raison simple, c'est que le Parti socialiste a 66 députés, LFI en a 72, donc on est quand même très proche. Et en plus, si on rajoute les sénateurs socialistes, bien évidemment, le poids parlementaire du Parti socialiste est aujourd'hui supérieur au poids parlementaire de la France insoumise. Bon, les capacités de mobilisation, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y a une bataille presque au couteau aujourd'hui entre socialistes et LFI, mais à fleur et mouchetée quand même. Hein, on n'est pas...
Pourquoi au couteau, Serge? Qu'est-ce qui se passe en ce moment entre LFI et PS?
Il y a une petite offensive au sein du Parti socialiste qui n'aura échappé à personne. Donc, Hélène Geoffroy, opposante de toujours d'Olivier Faure, est montée au créneau en disant Lucie Castet, c'est la créature de Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Meyer-Rossignol, autre opposant, c'est le vice-premier secrétaire, hein, ou premier secrétaire adjoint du
Oui.
Parti socialiste. Et monter au créneau aussi en disant, ah là là, c'est terrible, Lucie Castet, une espèce d'agent mélenchoniste. Alors, j'invite amicalement Nicolas Meyer-Rossignol à consulter ses propres archives, parce que en 2015, qui était sur la liste de Nicolas Meyer pour les régionales du Parti socialiste, enfin, sur la liste socialiste pour les régionales du Parti socialiste, eh bien, Lucie Castet, elle est... Vous tapez élection régionale 2015, liste du Parti socialiste, et vous trouvez Lucie Castet sur la liste de Nicolas Meyer-Rossignol. Donc, soit elle a vraiment beaucoup évolué depuis l'époque, soit la position de Nicolas Meyer-Rossignol est davantage une posture que une réflexion politique soutenue. Voilà. Et puis il y a Carole Delga, mais quand même qui est un petit peu plus en retrait, qui n'a pas envie de trop se marquer dans une bataille, parce que d'abord on ne sait pas ce qu'il adviendra de Lucie Castet, donc c'est pas la peine de monter au créneau. Et deuxièmement, la guerre avec la France insoumise, c'est pas forcément de son point de vue la chose la plus intéressante aujourd'hui. Voilà.
Il y a quelques questions sur le fameux gouvernement démissionnaire, parce que c'est vrai que c'est très confus, c'est très flou, cette histoire du démissionnaire. Donc là, il y a Abby BN qui pose une question qui demande comment le gouvernement démissionnaire peut continuer pendant des semaines ou des mois à exercer, alors qu'on vient de lui ôter le pouvoir parce qu'il est démissionnaire. Comment ça se passe?
Et ben alors, c'est une excellente question parce que là, on est dans l'aventure institutionnelle. Le propre d'un gouvernement démissionnaire, c'est l'idée du législateur. D'abord, il n'y a rien, hein, c'est une pratique parlementaire, hein, c'est une pratique institutionnelle. Il n'y a rien qui est inscrit dans la loi en disant le gouvernement, il est démissionnaire, il a tant de temps, et puis ensuite il se passe ça. Il n'y a rien qui est prévu. D'ailleurs, je fais une petite incise, il y a une proposition des communistes, une proposition de loi sur justement pour dire ben, un gouvernement démissionnaire, durée de vie à partir du moment de la démission, 8 jours. Ah oui. Et ensuite, il faut qu'il y ait un autre gouvernement. Voilà. C'est une solution, c'est peut-être même la solution à recommander parce que là, on est dans un exercice de style qui déconcerte tout le monde, c'est-à-dire que voilà des ministres démissionnaires. Alors surtout les synthés de télé, on rajoute démissionnaires, mais ils s'expriment en tant que ministres. Enfin, je regardais
l'autre jour, ça change rien.
De 30 minutes de Darmanin sur la sécurité des Jeux Olympiques. Bon, il y a un moment donné, on a envie de dire, écoutez, ministre démissionnaire, mettez-vous un petit peu en retrait. Mais normalement, l'idée qui préside à tout ça, c'est de faire que, à partir du moment où le gouvernement est démissionnaire, il reste en place jusqu'au moment où il va être remplacé par les nouveaux venus.
Et combien de temps ça peut durer ?
Rien, il y a rien qui le prévoit. Il n'y a rien qui le prévoit. La Constitution dit le gouvernement nomme le Premier ministre. Voilà. Le président nomme le Premier ministre. Il ne dit pas quand, il ne dit pas comment, il dit non, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Et donc lui, Emmanuel Macron nous dit aujourd'hui, ben, je fais ce que je veux quand je veux.
Voilà. Oui. Alors justement, question par rapport à la nomination, il y a Loïc Chiffre qui pose une question. Pourquoi Macron ne nomme-t-il pas Lucie Castet pour immédiatement la faire censurer, pour nommer ensuite quelqu'un de son bord, le bord macroniste, qui ne recueillerait pas 289 députés ?
Eh bien alors, c'est une excellente question, ça aussi, parce que c'est une question que je me suis longtemps posée. Je me suis dit, comme parfois j'ai une vision, pas cynique de la politique, mais j'essaye de voir qu'est-ce que peuvent apporter un certain nombre de solutions politiques. Et c'est vrai que chacun se dit, bon, bah, finalement, s'il veut se débarrasser de l'hypothèse de Lucie Castet, il la nomme, il y a une motion de censure 3 semaines après, au revoir messieurs, dames, et on passe au suivant. Bon. Sauf que, à la réflexion, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale ont été élus grâce aux voix du Front populaire, un certain nombre de députés de l'ancienne majorité, donc des députés du bloc macroniste, on va dire, et même des députés de droite ont été élus grâce aux voix du nouveau Front populaire. De but en blanc, voter une motion de défiance au nouveau gouvernement qui viendrait, avant même qu'il ait pu mettre en pratique ou en chantier un certain nombre de réformes, je pense que les électeurs risqueraient de le prendre très mal. Et quand je dis que les électeurs risqueraient de le prendre très mal, c'est que ces électeurs ont de fortes chances d'être convoqués dans un délai d'un an.
Quand tu parles des électeurs, c'est le bloc macroniste qui perdrait en superbe, quoi.
Je pense pas que les 10 millions et demi de voix qui sont portées sur le Front National vont s'évanouir, sur le Rassemblement National, vont s'évanouir aussi rapidement qu'on le dit, hein. Ce sera plutôt le contraire. Donc, dans un an, nous sommes en juillet 2025. Imaginons que les députés macronistes, avec la droite et avec le Rassemblement National, aient voté une motion de censure du nouveau gouvernement de Lucie Castet. Et puis, les élections législatives surviennent. Et là, ils ont besoin au deuxième tour, pour survivre, de l'appui des électeurs du nouveau Front populaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Ouais. Il y a un certain nombre d'électeurs qui vont dire non, merci, ça va, vous nous avez eu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, là, non. Ouais. Et donc, l'angoisse de Macron, c'est de se dire, ah, mais si tout à coup, la motion de censure tardait à venir, si tout à coup, elle commençait à mettre en chantier un certain nombre de réformes, des réformes à minima, mais qui sont susceptibles, par exemple, d'un débat parlementaire, ça pourrait peut-être durer plus longtemps que prévu. C'est ça qui l'inquiète, en vérité. Je prends un exemple, la taxation des super-profits, le MoDem n'est pas hostile à la taxation des super-profits. Donc, au cours du débat parlementaire, on peut se retrouver avec des députés, disons, du centre ou de droite, qui disent, bah, finalement, c'est pas une mauvaise idée, et travaillons ensemble pour voir comment on peut faire. Voilà. Donc, rien n'est inscrit dans le marbre. La motion de censure automatique que théorisent certains, notamment le Rassemblement national, si nous voyons LFI, etc., ça dépend où seront les ministres LFI, dans ce cas de figure, ce qu'ils feront. Et je vous renvoie à l'interview très intéressante qu'a donnée Lucie Castet dans la Tribune, où elle dit, oui, il y aura un compromis, parce que le propre du débat parlementaire, c'est d'aboutir à des compromis texte par texte. Hein, le débat un peu artificiel qui était de dire tout le programme, rien que le programme, etc. Ça marche quand on a la majorité absolue et qu'on dit, ben voilà, c'est comme ça, c'est gentil, vous avez déposé des amendements, on les prend pas en compte et circuler, il n'y a rien à voir. À partir du moment où on est dans une situation où finalement on est obligé de débattre et d'échanger et d'accepter et trouver des majorités, il peut y avoir un vrai débat parlementaire autour d'un certain nombre de propositions du nouveau Front populaire. Bon, faut pas non plus s'enthousiasmer outre mesure, c'est-à-dire que je pense que à terme l'application intégrale du programme du nouveau Front populaire, quand bien même il serait amendé à la suite du débat parlementaire, finira par poser un problème à un certain nombre de forces. Mais l'immédiateté, l'automaticité de la motion de censure, moi, j'y crois moyennement.
D'accord. On va parler un peu de Yaël Braun-Pivet, si ça ne te dérange pas.
Très bien.
De Hans Supona Siffrand. Est-ce qu'il est constitutionnel, pardon, que les démissionnaires aient voté pour Yaël Braun-Pivet, Serge, présidence de l'Assemblée?
Eh bien, pour les raisons que j'ai longuement exposées, le débat partage les constitutionnalistes, mais personne ne peut le trancher. Personne ne peut le trancher parce qu'il faudrait qu'une des instances de la République dise le droit, en l'occurrence. C'est pas le rôle du Conseil d'État. C'est le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'était pas compétent. Et je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas compétent. Parce que l'idée du législateur, c'est de dire finalement, l'Assemblée nationale, c'est le peuple souverain. Donc, personne, aucune institution de la République ne peut intervenir dans le cadre de l'activité parlementaire. C'est pour ça que, par exemple, vous n'avez pas des policiers dans l'hémicycle. C'est pour ça qu'on ne peut pas poursuivre un parlementaire pour des propos tombant sous le coup de la loi à l'extérieur, des propos qui sont tenus dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'au sein de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui fait sa loi. Donc on est là devant un vide juridique, et ce vide juridique a été mis à profit par les macronistes en disant bah, c'est la politique du fait accompli. Voilà, nous faisons voter les ministres, le secrétariat général du gouvernement a dit mais non, il n'y a absolument aucun problème. Donc on a excipé d'un article de la loi organique 153 qui concerne les députés qui deviennent ministres, eh bien on l'a pris dans le sens inverse. Et on a appliqué les règles qui valent pour les députés qui deviennent ministres, on les a appliquées aux ministres qui deviennent députés. Bon, ce qui est tout simplement un tour de passe-passe. Moi, de mon point de vue, en me rapportant à différents constitutionnalistes, je pense que effectivement cette élection restera litigieuse.
Concernant l'élection notamment du bureau de l'Assemblée, donc le nouveau Front populaire a la majorité absolue, hein, 12 postes sur les 22, c'était d'ailleurs très inattendu, hein, dont tu as parlé ça dans un Bourbon, je crois, le dernier Bourbon. Question de Laurent, donc Yaël Braun-Pivet se retrouve pieds et poings liés avec le bureau de l'Assemblée, parce qu'elle n'a pas la majorité absolue, comment va-t-elle asseoir son autorité? Est-ce que tu peux faire un rappel sur les compétences du bureau de l'Assemblée en même temps?
Alors, la présidente de l'Assemblée peut... alors d'abord, il y a le volet sanction. Donc, elle peut sanctionner, député fait du bruit dans l'hémicycle, a une attitude qui perturbe le débat ou qu'elle juge perturber le débat. Donc, elle peut lui infliger un rappel à l'ordre, comme ça, c'est un rappel à l'ordre simplement, je dirais, par la parole, hein. Un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal de la séance. Donc ça, ces deux sanctions, c'est elle qui peut les appliquer. Et ensuite, il y a l'exclusion qui, là, dépend du bureau. Il faut que le bureau vote. Voilà. Et bien évidemment, on imagine que si demain, un député de la France insoumise, puisque c'est souvent d'eux qu'il s'agit, était menacé d'une sanction qui serait examinée par le bureau, on peut imaginer que ce bureau se montrerait moins sévère ou moins pointilleux sur l'application du règlement. Parce qu'il faut bien voir, c'est que cette avalanche de sanctions et d'exclusions de la part de Yael Braun-Pivet, c'est une nouveauté sous la Ve République. Jamais les précédents présidents de l'Assemblée nationale, hein, je pense, j'étais regardé moi-même jusqu'à Chaban-Delmas, je pense qu'il y a dû avoir une sanction prononcée par le bureau à l'époque où Chaban-Delmas était président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une systématisation de la police des débats qui a visiblement dérapé. Je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir de Yael Braun-Pivet est limité sur ce terrain-là. L'autre aspect important, et en plus c'est bien parce que ça nous amène sur un point d'actualité. L'article 40, vous savez qu'il y a un article qui est très important dans la Constitution qui interdit aux parlementaires de déposer des propositions de loi générerait des dépenses, et donc pour qu'elles soient, ces propositions de loi soient recevables, il faut qu'en même temps qu'on propose de dépenser une somme, il faut en même temps qu'on propose de supprimer une dépense ailleurs, qu'on mette en avant un moyen d'augmenter la recette, c'est-à-dire on propose à l'Assemblée, je ne sais pas moi, de dépenser 100 millions supplémentaires dans le budget à venir. Eh bien, pour que cette proposition de loi soit recevable, il faut proposer un moyen de percevoir 100 millions de plus. Et le moyen qu'on utilise généralement, c'est la taxation du tabac. Voilà. Et donc, ça revient en permanence. On dit... c'est très simple, on va relever le prix du tabac, puisque l'État a le monopole de la vente du tabac, on relève à proportion de la dépense nouvelle créée par la proposition de loi. Bon, donc ça, pourquoi ça nous concerne? Ça nous concerne parce que tout simplement, l'abrogation de la réforme des retraites suppose une diminution des recettes de l'État, puisque donc les gens... On reviendrait à la situation antérieure. Donc, les gens continueraient à partir à 62 ans. Donc, ça veut dire des retraités qui partiraient plus tôt au lieu de partir à 64 ans. Et donc, à ce moment-là, ça va coûter plus cher à la sécurité sociale et donc au budget général de l'État. Et donc, il faut générer des recettes qui viennent compenser cette dépense. Et qui décide à ce moment-là de dire, la proposition de loi qui nous est proposée là, abrogeant la réforme des retraites, est une bonne proposition, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale se prononce sur la recevabilité des propositions de loi.
Et d'ailleurs, on a eu un précédent avec une proposition de loi du groupe Liotte, hein, je crois, pour l'abrogation de la réforme des retraites.
C'est très exactement à ça que je fais référence. Le groupe Liotte, Charles de Courson, était porteur d'une proposition de loi qui proposait d'abroger déjà la réforme des retraites. Et ce texte n'a pas été jugé recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Là, on risque de se retrouver dans une situation assez... surprenante, où la présidente dira « mais non, c'est pas recevable », et le bureau dira « mais oui, c'est recevable ». Et donc ce là sera encore, recevable. On va créer un précédent, puisque de mémoire, ça n'est jamais arrivé que le bureau soit à rebours de la présidente.
Une cohabitation au sein du bureau de l'Assemblée, ça n'est jamais arrivé?
Ça n'est jamais arrivé. Donc, nous avons une cohabitation parlementaire maintenant. C'est pour ça que je vous dis qu'on vit une époque formidable, parce que ça n'arrête pas de... Enfin, on explore des situations constitutionnelles qui ne sont pas prévues par les textes.
Une autre question de Loïc. Comment le gouvernement Castex pourrait-il commencer à faire des réformes sérieuses d'application du programme du NFP sans faire une loi de finances rectificative ou de faire un budget ?
Alors, il est prévu de faire un projet de loi de finances rectificative. Cela étant, si Lucie Castex était nommée à la fin du mois d'août, à ce moment-là, on rentre directement dans la situation, dans le débat budgétaire. Et donc, il est vraisemblable que, plutôt que de préparer un projet de loi rectificatif, on se tournera vers la préparation du budget. Et c'est le vrai rendez-vous politique, la préparation du budget. Pourquoi ? Parce qu'il faut que, début septembre, il y ait ce qu'on appelle les lettres de cadrage, c'est-à-dire par ministère, les budgets, finalement, qu'on accorde à chacun des ministères. À charge pour chacun des ministères, ensuite, dans le cadre de l'enveloppe qui lui a été accordée, de définir un certain nombre de dépenses et de dire bah nous on va plutôt investir là-dessus plutôt que là on va je sais pas moi mettons la défense ou mettons la police ou par exemple l'artisanat on va choisir de mettre de l'argent là-dessus plutôt que sur autre chose voilà bon donc chacun fait sa petite cuisine dans le cadre de l'enveloppe qui lui a été accordée. Ensuite, à partir le premier jeudi du mois d'octobre, la discussion budgétaire s'enclenche. Donc, il faut que à ce moment-là, il y a un budget, une ébauche de budget qui existe à partir de ces lettres de cadrage. Les lettres de cadrage, on dit aux différentes administrations et puis aux différents ministères, eh bien, avec cette enveloppe, bâtissez-nous. Un schéma prévisionnel de dépenses. Et ensuite, c'est ça qui va être présenté aux députés et eux vont bien évidemment amender, supprimer, rétablir, introduire des dispositions nouvelles. Voilà. Donc, je pense qu'on sera plutôt dans ce cadre-là puisqu'on sera début septembre.
Une question concernant le fameux gouvernement de coalition que les macronistes adoreraient. Est-ce que, à ton avis, ça peut être à la hauteur des défis du pays actuellement ? C'est une question de Barnapax.
Non, parce que, à mon sens, je pense que tout le monde a besoin de faire l'expérience du blocage. Voilà, je pense que ce qui se dessine, c'est que l'ensemble des forces politiques, pour lâcher du lest, ont besoin de faire l'expérience du blocage politique. Donc, à un moment donné, il va y avoir un premier gouvernement. Forcément, il faudra qu'il y ait un premier gouvernement.
Il faut un crash test, quoi, absolument.
Oui, enfin, il faut un crash test. Il faut un premier ministre, quel qu'il soit. Hein, voilà. Donc, à partir de là, les gens vont se disposer. Et on va voir un petit peu quelles sont les postures. Est-ce qu'on est parce que là, pour l'instant, il y a des tas de gens qui disent dans la presse, pas un seul ministre LFI, pas ceci, pas cela, pas une dépense supplémentaire, etc. Bon, et après, il y a la réalité politique qui fait que les mêmes vont dire, bon ben, laissons un peu les choses se dérouler, voyons comment ça se tourne, etc. C'est pour ça que je dirais la personnalité du Premier ministre, de la Première ministre, s'il s'agit de Lucie Castex, va être importante. C'est sa capacité à prendre langue avec des adversaires politiques et à voir avec eux quelles sont les limites qu'ils posent sur chacune des propositions du nouveau Front populaire. Voilà. Et essayer de voir... L'idée, c'est quoi ? C'est d'arriver à faire voter des propositions avec des majorités différentes à chaque fois. Parfois, des majorités qu'on va chercher à gauche, des fois, il y a des majorités qu'on va chercher très à droite.
Là, par exemple, j'ai un exemple. La France Insoumise a déposé une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. Le Rassemblement National dit qu'il était favorable. Bah, ça, c'est bon, ça fait une majorité absolue.
Ça fait une majorité absolue. Alors maintenant, la question, bien évidemment, c'est le baiser de la mort qu'a prévu le Rassemblement National. C'est-à-dire de dire, bah, vous voyez, nous, on propose deux. Vous êtes d'accord? Donc, il y a deux solutions. Soit vous ne soutenez pas cette proposition de loi et c'est la preuve que vous êtes sectaire, etc., etc., etc. Mais si cette proposition de loi du RN est votée, à ce moment-là,
Enfin, c'est la proposition de LFI, du coup. Hein.
Oui, pardon, la proposition de LFI. Mais à ce moment-là, les autres diront, ben non, pas question de voter une proposition de LFI et du RN et réciproquement. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'un ou l'autre qui peut servir d'alibi. Si on vote une proposition du nouveau Front Populaire qui a le soutien du RN, on peut dire, ah ben non, moi je vote pas ça parce que le RN est là. Voilà. Et inversement, une proposition du RN sur la question, on peut dire, bah non, moi je vote pas avec le RN. Donc, c'est une espèce de cercle sans fin, hein, voilà, d'alibi sans fin.
Et par exemple, sur cette proposition d'abrogation de la réforme des retraites, tu penses qu'au sein du NFP, voyant que le RN va voter avec, il pourrait se désister tu...
Non, moi je pense pas, parce que tu ne peux pas empêcher, par définition, les gens de voter pour une proposition que tu soumets. Tu peux pas dire, écoutez, mesdames et messieurs, je vous propose d'abroger la réforme des retraites, mais je n'accepterai que les voix qui viennent de la gauche et de la droite, mais pas celles du RN. D'abord, je ne sais pas comment techniquement ça pourrait se faire. Et puis deuxièmement, si le RN vote le texte, pourquoi pas?
Donc virtuellement, elle a de grandes chances de passer, quoi, cette proposition.
Elle a de grandes chances de passer, mais je pense qu'il faut être très prudent avec les constructions qu'on peut faire.
Grande chance. Voilà. Ça va être le cas. Une question de Vivien sur le chat. Hein. Posez vos questions du coup, sur le chat. On est en direct encore une petite heure. N'hésitez pas. Sur le plan de la communication politique, est-ce qu'on peut penser que Macron mise sur les JO pour faire oublier Lucie Castet aux yeux du grand public?
Je pense qu'il l'espère, mais qu'il y parvienne, c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que une fois que les JO seront terminés, d'abord il s'est engagé, lui, à proposer... désigner un Premier ministre autour du 15 août. C'est lui-même qui a fixé cette date. Donc, si rien ne se passe au moment du 15 août, ça va être compliqué. Alors, il pourra dire, oui, mais j'avais mis comme condition que sur la base du Front républicain, se soit construit un pacte, etc., etc. Bon, donc il peut aller. Mettons qu'il puisse gagner encore une petite semaine et qu'il arrive... au début septembre, là, de toute manière, il y a l'épée de Damoclès, c'est-à-dire la préparation et le vote du budget. Voilà, il est obligé. On ne peut pas voter un budget sans gouvernement. Voilà. Mais j'attire l'attention de tout le monde sur le vote du budget. C'est que c'est une chance sur deux que le gouvernement qui portera le budget soit renversé par une motion de censure.
Comment on fait d'ailleurs parce que si le budget passe, comment ça marche? Si tu te fais renverser, si le gouvernement se fait renverser.
Il y a d'autres solutions, soit discussion sur le budget, donc tu votes la partie recette, la partie dépense, et puis à un moment donné, on vote surtout. Voilà, bon, c'est le vote final. Deux solutions, vote final, le budget est adopté parce qu'il y a une majorité pour le budget, très bien, pas de problème. Deuxième solution, tu sens que tu vas pas avoir la majorité et tu as recours au 49-3, c'est ce qu'a fait Elisabeth Borne.
Mais une fois par session, ça?
Non, pour le budget, c'est open bar, tu le fais tant que tu veux.
Mais alors c'est quoi une fois par session?
Une fois par session, c'est pour tout le reste.
C'est pour les finances où tu... Ah d'accord, ouais, où tu peux faire à l'infini, ouais, c'est vrai, Et ça devient technique maintenant.
Voilà, et pour tous les autres textes, là, c'est une fois par session, voilà. Donc une session, je le rappelle à tout le monde, c'est la période qui va de début octobre jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la mi-juillet. Voilà.
C'est l'année scolaire.
On ne peut pas confondre avec une législature qui est normalement la période de 5 ans. Enfin, c'est la période, c'est l'ensemble, c'est la durée du mandat des députés. Voilà. Donc la session, c'est finalement l'Assemblée siège en session ininterrompue une fois par an. Et donc, dans ce cadre-là, il y a la possibilité donc d'utiliser une seule fois l'article 49.3 pour faire passer un texte qui est jugé très important par le gouvernement. Et en matière de loi de finances, le gouvernement y a recours tant qu'il veut. Je rappelle également que la jurisprudence fait que l'utilisation du 49.3 à plusieurs reprises sur un même texte est comptée comme une seule fois.
C'est par taxe.
Si, parce que tu as plusieurs lectures. Donc, première lecture, machin, l'Assemblée n'est pas d'accord. Tu dis 49.3, ok, 49.3. Et le texte va au Sénat. Puisqu'il est adopté par l'Assemblée nationale. Donc, le Sénat, il n'y a pas de 49.3. Le Sénat, il y a une majorité, tac, tac. Le texte revient à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité. Re-49.3. À supposer que ça reparte encore pour une deuxième lecture au Sénat, là encore bon, ça passe, et puis ça revient, et puis c'est commission mixte paritaire, conclusive, 7 députés, 7 sénateurs, ils se mettent d'accord sur un texte de compromis, l'Assemblée est d'accord, youpi, tout le monde rentre chez lui et on débouche une bonne bouteille. Le texte de la commission paritaire est pas retenu ou la commission paritaire n'est pas parvenue à se mettre d'accord, et à ce moment-là, en dernière analyse, le gouvernement utilise le 49.3. Et donc, il peut. Mais tout ça, ça compte pour une fois. Hein, voilà. C'est un 49.3 sur un texte. Voilà.
Ok. Question de Fun Fan sur le chat. Est-ce que les macronistes ont vraiment la possibilité de voir une alliance de faire une alliance avec d'autres partis à droite ou à gauche?
Ah, ça, ils ont la possibilité de faire une alliance, mais je vais reprendre mes chiffres. Hein, je prends mon petit papier. Je fais beaucoup de calculs en ce moment. Mais si on ajoute les 47 députés donc de à droite, le nouveau nom des Républicains.
Non, c'est la droite républicaine, ça. À droite, c'est Ciotti.
Pardon. Autant pour moi, tu fais bien de corriger. Oui, on fait tous à un moment donné l'erreur. Il ne faut pas se tromper de droite. Il y a la droite vraiment très à droite et celle qui est un tout petit peu moins à droite, il paraît. Voilà. Donc, si on ajoute les 47 de la droite républicaine aux 166 de Renaissance, Modem, Horizon, on n'a toujours pas de majorité absolue. Voilà. Donc, il faut, à ce moment-là, que le Rassemblement national soit dans la danse. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de majorité à droite avec la droite, plus exactement, macroniste plus droite. Il faut que le RN soit là. Autrement dit, le RN devient l'arbitre de la situation. Et on a connu ce schéma. Ce schéma, on l'a connu au moment de la loi immigration, où finalement, on a bien vu que ce texte passait grâce aux voix du Rassemblement national, ou en tout cas grâce à la non-opposition du Rassemblement national. Mais on a bien vu que c'était le Rassemblement national qui avait finalement durci le texte au maximum avec l'aval de la droite. Voilà. Donc les macronistes, ils font leur petit calcul, mais c'est vrai que pour eux, l'hypothèse la plus séduisante, c'est de faire ou de tenter de passer une alliance avec 3 des 4 partis du nouveau Front populaire, à supposer que ce soit possible, et de trouver 2 députés, mais ça se trouve, dans l'Assemblée nationale, qui viendraient faire l'appoint. Moi, j'ai compté, ça fait 287 députés. Il faudrait trouver 2 députés supplémentaires.
Et ça, c'est tout le monde, si tu prends PS, écologiste et GDR, PCF, c'est ça?
Ouais. Sans la France insoumise, sans les 72 de la France insoumise. Donc, tu prends ces 3-là, tu prends les macronistes, tu trouves encore 2 autres députés, mettons, deux députés de Lyot, ou parce qu'il y a trois socialistes qui sont dans le groupe Lyot. Donc, on peut penser que s'il n'y avait plus la France insoumise, ces députés-là seraient prêts à se rallier à une alliance, et tu as une majorité absolue. Voilà. Mais la question, c'est, moi, je ne suis pas certain que, pour les raisons que j'ai évoquées au début, le Parti socialiste soit sur cette ligne-là, même si il y a des tentations en son sein. Je ne pense pas que les écologistes soient sur cette ligne-là.
Ah oui,
je pense que les communistes ne sont absolument pas sur cette ligne-là. Voilà.
Ah oui, ça paraît extrêmement improbable quand même. Enfin...
Mais ça paraît improbable, mais tu sais, la plupart des responsables politiques aujourd'hui font de la politique avec une calculette dans la main, en se disant, bon, on leur attend, alors machin, non, oui, ah, ça marche pas. Alors, si on vire lui et si on trouve les autres, et voilà, bon, c'est... Mais et Pascal Canfin, je le répète, la tribune de Pascal Canfin est le fruit de ses cogitations.
Mais du coup, parce qu'en attendant, on a un gouvernement dit démissionnaire, il y a une question de Damien sur le chat. Est-ce qu'un gouvernement démissionnaire peut engager sa responsabilité, du coup, utiliser un 49-3 ?
Non.
Ah, ça, c'est pas possible.
Il ne peut pas. Il ne peut pas déposer de projet de loi. Il ne peut pas fixer l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que l'Assemblée nationale ne marche pas en ce moment, enfin, est en chômage technique.
Mais même
et
si
il ne peut pas utiliser le 49-3.
Mais si un autre parti propose une loi, il ne peut pas utiliser le 49-3. Il faut absolument que ce soit à l'initiative du gouvernement.
Il fixe l'ordre du jour.
D'accord.
Donc, pas d'ordre du jour, pas de travaux parlementaires. Donc, tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement, il n'y a pas de travail parlementaire. Il n'y a pas de travail législatif. Les députés ne peuvent rien faire.
Ok. Ça parle beaucoup de démission de Macron hein, sur le chat. Il y a plusieurs personnes là, qui en parlent. Toi, ton avis, est-ce que la démission est possible et crédible dans les prochains mois ?
Alors, moi je pense que un certain nombre de forces politiques, je vais dire lesquelles, estiment que la vie politique, la vie institutionnelle va être bloquée quoi qu'on fasse. Et que donc le seul moyen de débloquer celle-ci, ce serait que le président de la République démissionne et que puis il puisse convoquer de nouvelles, le nouveau président de la République, j'entends, et qu'il puisse convoquer de nouvelles élections législatives dès juillet 2025. Sur le thème, vous m'avez élu, puisque vous m'avez élu, j'ai besoin d'une majorité pour porter mon programme, et donc je vous demande de confirmer votre vote en élisant une majorité de députés qui se réclament de mon programme. Voilà. C'est ça la logique qui se met en place. Alors, il y a deux personnes qui envisagent cette hypothèse. Je ne dis pas qu'ils forcément la souhaitent, mais en tout cas, ont bien compris qu'il y a beaucoup de chances qu'on se retrouve dans cette situation. C'est d'un côté Marine Le Pen, qui se dit que c'est un moyen finalement de hâter les échéances. Et pour elle, ça présente surtout l'avantage aussi... Bah, ne pas laisser à Jordan Bardella prendre trop d'espace. Hein. 3 ans, c'est long. 3 ans, c'est long et il peut se passer plein de choses. La vie politique nous l'a appris. Et puis, bien évidemment, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a intériorisé la dimension bonapartiste de la Constitution de la Ve République et qui fait du poste de président, du mandat de président de la République, l'alpha et l'oméga de toute politique de réforme du pays. C'est-à-dire que lui pense que le Premier ministre fera ce qu'il pourra, mais enfin il est quand même tenu à la fois par la majorité parlementaire et puis par le poids du président de la République. Le président de la République, quel qu'il soit, a davantage de latitude de s'affranchir de l'Assemblée nationale.
En parlant de Macron, on a une question de Riyad sur le chat. Macron, en imposant une coalition de députés, n'a-t-il pas outrepassé la séparation des pouvoirs ?
Ben, moi, c'est un peu mon avis. C'est un peu mon avis parce que c'est pas, il n'a pas à dire comment les députés doivent s'organiser. C'est un truc un peu étrange, quoi. Tu vas pas dire aux gens, mesdames et messieurs, voilà, ce serait bien que vous tombiez d'accord les uns et les autres. Et quand vous serez tombés d'accord, alors je nommerai un premier ministre. Là, je le trouve un petit peu gonflé. Il n'a pas à donner des recommandations. Qu'il le souhaite, pourquoi pas?
Moi, j'ai une question parce que Lucie Castet avait été annoncée, la proposition du NFP de Lucie Castet avait été annoncée une heure avant son allocution télévisée à la veille des JO, je crois, c'était jeudi. Hein.
Oui.
À ton avis, Macron, il l'a pris comment? C'est parce qu'il a dit il ne s'agit pas d'un non, je ne sais pas quoi, il a évacué la question.
Mais il a évacué la question parce que lui, il conditionne la nomination d'un Premier ministre à l'existence d'un accord politique entre les différentes composantes du Front républicain. Ce qui, ouais, en plus, est un peu incohérent de mon point de vue, parce que ces lieutenants nous disent « Ah là là, si la France insoumise est dans le coup, on n'en veut pas ». Mais dans le Front républicain, il y avait la France insoumise. Donc, il faut savoir, si la France insoumise est dans le Front républicain et qu'on veut construire quelque chose sur la base du Front républicain, donc on est obligé de mettre la France insoumise. Donc là, c'est un peu les limites de la posture présidentielle. Mais lui, donc, dit en gros, je ne nommerai un Premier ministre que lorsque les différentes forces qui se sont retrouvées sur le Front républicain se seront mises d'accord. Ce qui est absurde, parce que le Front républicain, c'est pas un front autour d'un programme, c'est un front du refus. C'est pas un front pour porter un programme, c'est pas une ébauche d'accord politique. Ce sont des parlementaires de tous horizons, souvent adversaires, qui se mettent d'accord pour se désister les uns pour les autres.
Mais pourquoi il utilise cet argument à ton avis ?
Ben, il utilise cet argument parce que il ne veut pas se résoudre. D'abord, son problème, lui, c'est de continuer à exister politiquement. Donc il se dit il faut absolument que j'arrive à sauver le bloc central, ou en tout cas à faire que s'organise, que la vie politique de la nation pendant les 3 années qui viennent s'organise autour du bloc central. Donc il met en avant le fait qu'il faut une alliance, et cette alliance, elle doit se faire forcément avec les macronistes et puis les forces qui éventuellement pourrait travailler avec les macronistes. Et c'est pour ça que lui rêve d'une alliance avec le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes. Voilà.
Une question qui nous emmène au-delà de la métropole, une question de Rick Frexit, super pseudo. Bonjour, quelles sont les conséquences de la dissolution de l'Assemblée et de l'absence de gouvernement, enfin en tout cas avec un gouvernement démissionnaire, sur la gestion de crise en Nouvelle-Calédonie?
Là encore, bonne remarque, il n'y a pas de gestion de crise en ce moment. Il y a une situation qui est en train de se dégrader. Elle se dégrade et pour une simple et bonne raison, c'est que il n'y a pour l'instant qu'une réponse militaire. Je dis militaire parce que c'est la gendarmerie qui maintient l'ordre, mais premièrement, elle peut pas le maintenir ad vitam aeternam. Deuxièmement, il faut trouver quand même une solution politique. Cette solution politique, quelle est-elle? C'est soit l'organisation d'un nouveau référendum ou pas, l'accession à l'indépendance ou pas. C'est une question qui se pose, mais qui doit être envisagée sereinement. Et puis c'est une question où il faut qu'il y ait des interlocuteurs. Donc il y a des gens qui sont en train de discuter, qui représentaient le gouvernement précédent, qui sont sur place, mais maintenant il faut qu'il y ait un gouvernement en face, un vrai gouvernement.
Mais d'ailleurs, les Calédoniens ont envoyé un député indépendantiste.
Tout à fait, que j'ai eu le privilège d'interviewer, donc nous avons toujours son interview, il faudra qu'on la diffuse dès qu'on pourra.
C'est la première fois depuis 1984, je crois, hein, que...
Oui, oui.
Ça fait très longtemps. À ton avis, ça va changer quelque chose? Il va Pour parler du cas calédonien.
Je pense que dans ce type de situation, c'est toujours bon que les partis en présence puissent se parler directement, et un député indépendantiste à l'Assemblée nationale qui puisse porter les revendications de la population kanak dans l'hémicycle, c'est une bonne chose, parce qu'au moins ça permet de poser le problème, d'en débattre et d'essayer de trouver des solutions. Il va falloir trouver des solutions. C'est un problème qu'on ne peut pas laisser pourrir. Hein, c'est cette stratégie politique qui consiste à dire bon, on rétablit l'ordre, machin, c'est bien, il n'y a plus de barrage, il y en a encore un peu quand même. On déploie des gendarmes un peu partout, on ne peut pas les déployer en permanence sur une telle échelle. Mais le pourrissement politique de la situation ne peut que générer des affrontements.
Vous êtes quasiment 1500 en direct, merci beaucoup. On a réussi à vous tirer un petit peu des JO pour une heure avec nous. Et nous aussi.
Et à la fin, je marche sur une poutre et je fais des cabrioles, vous allez voir.
On file à Bercy après pour des épreuves. Question de Astrachak. Pensez-vous que Macron puisse jouer la tutelle par l'Europe pour continuer son programme et court-circuiter tout le monde? Parce que là, l'Europe a remis un tour de vis, hein, j'ai vu.
L'Europe a remis un tour de vis, oui, mais le budget, c'est l'Assemblée nationale, hein, c'est pas Macron. Voilà.
Mais tu penses qu'il ne va pas jouer ça
Il peut jouer ce qu'il veut, mais il y a un moment donné, c'est. Il faut bien. On est au cœur, finalement, du débat politique qui traverse la France depuis 20 ans, même un peu plus. C'est cette histoire des 3% du déficit. Voilà. Hein, c'est-à-dire, on doit absolument tendre vers les 3%. Chiffre dont on sait aujourd'hui qu'il est totalement arbitraire et qu'il a été posé là comme ça. Voilà, ça ne repose sur aucun fondement économique particulier. Donc la question, c'est d'abord, c'est pas l'endettement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la dette ? Est-ce que c'est parce qu'il y a la bonne dette et la mauvaise dette, hein, pour parodier le sketch des inconnus avec les chasseurs. Mais la bonne dette, c'est des dépenses d'investissement. La mauvaise dette, c'est des dépenses de fonctionnement. Si tu empruntes sur, si tu fais appel au marché pour développer le pays, pour construire des infrastructures, pour aider des filières, je sais pas moi, mettons l'hydrogène vert, puisqu'on en parle un peu moins maintenant, mais c'est une des filières qu'on peut envisager, par exemple, donc sur la transition énergétique, donc. On peut choisir de s'endetter et d'aller au-delà des 3%. Voilà. Si maintenant les 3% c'est uniquement pour assurer le fonctionnement de l'État, c'est qu'il y a un petit problème dans les ressources fiscales. Moi, je pense qu'il y a un énorme problème si aujourd'hui nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est non pas parce qu'on a dépensé plus, mais c'est parce qu'on a fait rentrer moins dans les caisses de l'État. C'est la flat tax, c'est les aides aux entreprises accordées sans aucune contrepartie. C'est ça qu'il faut voir. Moi, j'ai rien contre aider les entreprises, mais avec des contreparties sur l'emploi, sur les filières, sur les technologies, sur les marchés aussi, de dire d'accord, et votre ce que vous fabriquez, vous allez le vendre à qui, comment, donc en mettant, moi, je suis assez partisan d'une économie régulée, voilà. Donc, qu'on aide les entreprises, oui, bien sûr, qu'on développe, parce que les entreprises, c'est de l'emploi, c'est la santé économique du pays, mais pas sans contrepartie. C'est cette espèce de posture idéologique qui nourrit Macron depuis le départ, qui est, un, le ruissellement, donc c'est bien, à partir du moment où des gens gagnent l'argent, ça descend en cascade et ça ruisselle, ça ruisselle pas, ça s'arrête dans les premières poches. Bon, ça c'est le premier blocage idéologique chez Macron, et le deuxième blocage, c'est la politique de l'offre, c'est-à-dire que on se dit finalement on va faire des entreprises qui fabriquent des tas de trucs pour super bien, pour pas cher. Et les gens vont se précipiter dessus pour les acheter, ces marchandises. Le problème, c'est que la demande, elle se contracte. À force d'avoir des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils vont pas aller se précipiter sur les marchandises qu'on leur propose. Ça, c'est donc les politiques de l'offre sans prendre en compte la demande, ça conduit à la catastrophe. C'est très bien, on aura de formidables entreprises qui produisent pour trois fois rien des trucs géniaux, mais malheureusement, personne ne pourra les acheter. Voilà.
On a quelques questions sur le chat vis-à-vis de possibles frondeurs au sein de la Macronie. Et aussi Toto Juju qui nous demande quel sera le rôle de Gabriel. Toto Juju, oui. Quel sera le rôle de Gabriel Attal à l'avenir?
Gabriel Attal, il est partout, puisqu'il réussit à être Premier ministre, patron du groupe parlementaire, et maintenant il va être président de Renaissance qui est devenu Ensemble. Voilà. Donc il vise la tête du parti anciennement présidentiel qui n'est plus tout à fait.
Est-ce qu'il va devenir comme Édouard Philippe, ou a priori Édouard Philippe et Macron se détestent, je crois que c'est le cas. Est-ce que tu penses que Attal va être le nouveau rival de Macron, quoi?
Un nouveau rival, non, mais la détestation est consommée, parce que Macron n'a absolument pas consulté Attal pour prendre sa décision. Il l'a informé de sa décision. Il ne lui a pas demandé son avis. Voilà. Et donc Attal pense que c'était, sur un plan politique, c'était une connerie. Pour ce qui est de sa petite personne, à laquelle il est quand même assez attaché, il a bien joué dans la séquence, hein. Il s'est posé en chef d'une majorité ou de député abandonné par le président, et il a rebondi dessus. C'est-à-dire qu'il a été très présent pendant la campagne législative. Alors même que pendant la campagne des européennes, il était plutôt aux abonnés absents, hein. Il a fallu un peu le violer sur la fin pour l'obliger à se montrer en compagnie de la candidate, tête de liste. Mais en revanche, sur les législatives, il a été omniprésent, alors que le président a été omni-absent, si je puis dire.
Bien joué. Une question de Étienne sur des possibles mouvements sociaux à la rentrée. Est-ce que, à ton avis, ça peut repartir de manière intense, ou bon, après, ça dépend de la décision d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'on ouvrirait une séquence manifestation?
La séquence manifestation, elle est ouverte de fait par la participation des syndicats au nouveau Front populaire, aussi bien la CGT que la CFDT. Il ne faut pas oublier que le nouveau Front populaire, ce n'est pas uniquement un cartel politique, c'est aussi des syndicats qui en font partie et des ONG. Et donc, à partir du moment où la question des retraites ne va pas trouver un débouché, mettons, c'est un autre Premier ministre qui est nommé, Macron dit tant pis, je ne prends pas en considération le résultat du nouveau Front populaire et je décide de nommer un Premier ministre de droite, voire d'aller chercher dans ma propre majorité un Premier ministre en le chargeant de former une équipe plurielle. Bien évidemment, les syndicats risquent de bouger.
D'accord, n'hésitez pas, toujours on est en direct, il est 19h30, posez vos questions sur le chat, on va répondre encore à pas mal de questions. Muriel, que je remercie d'ailleurs pour sa fidélité depuis un long moment, nous dit: j'ai entendu dire que Macron allait nommer Xavier Bertrand comme Premier ministre.
Alors ça, c'est une rumeur qui court beaucoup. Pourquoi? Parce que Xavier Bertrand présente plusieurs avantages. D'abord, son hostilité envers le Rassemblement national ne fait pas de doute. Deuxièmement, il est très fâché avec ses copains de LR, puisqu'il n'y est plus. Donc, il est finalement l'homme de droite qui est plutôt apprécié à gauche. Et pourquoi ? Parce que il a pas hésité, par exemple, à prendre position pour Ruffin, en disant voilà, et pour le nouveau Front populaire, en disant
Jumel aussi, il avait fait un truc
pour Jumel également, en disant voilà, il ne faut pas hésiter à voter nouveau Front populaire pour barrer la route au Rassemblement national. Donc, il s'est vraiment engagé. Donc, il a donné des gages à la gauche. Il est suffisamment émancipé de son ancien parti pour afficher une indépendance et il n'est pas dans les profondeurs du classement des Français en termes de personnalité. Voilà, c'est-à-dire que son capital d'antipathie est quand même assez faible, donc il pourrait. Il pourrait faire le job. Voilà.
C'était en 2022 où il était face à Anne-Sophie Lapix. Il y a un mème sur les réseaux sociaux comme ça. Il disait qu'il allait forcément gagner. Enfin, il était vraiment confiant sur ses chances de réussite à la présidentielle. Et c'est vrai qu'il n'a même pas passé la primaire. Tu penses qu'il serait fédérateur ?
Il peut l'être dans les circonstances. Tu sais, les gens qui ne sont pas fédérateurs à un moment donné peuvent le devenir. Oh. Hein. Pour reprendre mon exemple fétiche, François Mitterrand a réussi à la troisième fois et bon,
c'était hop là, pas bon, voilà. T'es content, c'est bon.
Non, mais je prends toujours ça comme exemple parce que quand on sait d'où est parti François Mitterrand après l'attentat, le faux attentat de l'Observatoire, donc il était en dessous de zéro dans l'opinion publique et arrivé à ce qu'il a réussi à faire en 1981 est quand même assez remarquable. Bon, donc comme quoi en politique on ne meurt jamais tout à fait. Voilà, donc Xavier Bertrand pourrait être l'homme idoine à un moment donné. Voilà, mais reste le problème d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire parce que on peut le nommer, mais que va-t-il faire? Que va-t-il proposer? Voilà.
D'ailleurs, très bonne transition sur les carrières politiques. On a une question sur François Hollande. Alors, j'essaie de rechercher, ça défile vite. On a une question sur l'avenir politique de François Hollande. Est-ce qu'il va revenir au premier plan de la scène politique ?
Moi, je lui prédis un grand avenir sur la chaîne Météo. Non, trêve de plaisanterie. Oui, il veut revenir en 2027, voilà. Il y a plein de gens qui sont candidats aussi pour 2027. Alors, il essaye un peu de tirer les ficelles en ce moment, d'être un peu à la manœuvre. Faut bien comprendre que François Hollande, c'est un travail de bouton de veste, voilà. C'est-à-dire le message qu'il a fait passer en étant élu député, c'est je suis de retour, voilà. Et donc maintenant, il va commencer un peu à fédérer autour de lui. Donc c'est toujours des bons conseils, voilà. Il va pas prendre de responsabilités. Il faut pas s'y tromper. Il va éviter de prendre des responsabilités de premier plan. Mais en revanche, il va beaucoup déjeuner. Il va avoir des appels amicaux. Voilà, il va essayer d'animer un peu un courant. Voilà.
Alors ces dernières années aussi, il y avait pas mal de docu. Il a fait des docu notamment sur des plateformes de VOD comme Netflix pour parler d'international. Et je trouve qu'il a vraiment travaillé son image comme ça auprès d'un public un peu jeune pour revenir un peu sur ses années. Est-ce que sur ses années de mandat, est-ce que ton avis, ça participe, ça fait longtemps qu'il y pense quoi?
Mettez-vous à sa place. C'est le seul président dans l'histoire de la Ve République qui n'a pas pu se représenter. Tellement il était tombé bas dans les enquêtes d'opinion, tellement les gens le méprisaient. Hein, finalement, il y a deux types de présidents. Il y a ceux à qui on voue une haine absolument incommensurable. C'est un peu ce qui se passe avec Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est détesté à un point jamais vu dans l'histoire de la République, plus que Nicolas Sarkozy, hein, plus que Nicolas Sarkozy. Sarkozy était considéré comme une espèce de voyou, droitier, mais en même temps, le côté, comment dire, peu gangster entre guillemets du personnage pouvait susciter parfois des élans de sympathie ou en tout cas bon voilà mais François Hollande il a tiré la pitié et Et quand on n'avait pas pitié de lui, c'était le mépris assuré. Et je ne pense pas que c'est beaucoup changé.
Mais d'ailleurs, question de Exoticos très importante. Comment doit-on appeler François Hollande maintenant? Monsieur le Président ou Monsieur le Député?
Monsieur le Président.
Donc tu le croises aux salles de quatre, salle des quatre colonnes, c'est Monsieur le Président.
Oui. Bon, je lui dis Monsieur Hollande.
Parce que t'es incapable de dire Monsieur le Président.
Non, parce que quand tu interpelles un député qui passe, tu as exactement, montre en main, 3 secondes pour te manifester. Alors, tu peux dire François, il se retourne, mais après, tu es emmerdé pour faire le...
Et puis, des François, il y en a 40, hein, des François. Hein.
Voilà. Donc, le mieux, c'est Monsieur Hollande, voilà.
Alors, je cherche des questions. N'hésitez pas à nous les poser. Hein, on est toujours en direct. Question de Maxime. Est-il possible d'avoir un gouvernement technique avec des hauts fonctionnaires sans lien avec les partis politiques?
Ah, mais on peut faire toutes les combinaisons. Mais le gouvernement technique, comme n'importe quel gouvernement, est exposé à une motion de censure. Je pense qu'un gouvernement technique est beaucoup plus faible qu'un gouvernement politique. Parce qu'il peut prendre une motion de censure de... toutes les forces.
Mais il n'a aucun ancrage, bien sûr.
Voilà.
Une autre question de Claire. Qu'anticipes-tu, Serge, sur la réaction de l'électorat du RN devant leur absence de représentants au poste clé de l'Assemblée? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais le RN n'a aucun poste au bureau de l'Assemblée nationale. Et elle, donc Claire, voit l'électorat RN se radicaliser. Qu'est-ce que tu en penses?
Revenons un peu sur cette situation. C'est parce qu'ils s'y sont pris un peu comme des manches. Au départ, l'idée, c'était un accord, un de ces accords souterrains comme celui qui avait prévalu en 2022. Sébastien Chenu avait rencontré Yael Braun-Pivet, d'ailleurs il le disait à notre micro, en disant, écoutez, c'est très simple, nous on veut... deux vice-présidents, on veut garder les deux vice-présidents qu'on a, et on veut en plus un questeur. Alors le questeur, vous savez, il y en a 3 à l'Assemblée nationale, et ce sont ces députés qui ont en charge le fonctionnement et surtout les finances de l'Assemblée nationale. Bon, et par tradition, un des postes de questeur va à l'opposition. Donc le RN avait dit, on veut aussi un questeur, et puis voilà, et on sera content. Yael Braun-Pivet a laissé entendre au Rassemblement National que c'était d'accord, et Attal, là-dessus, est arrivé à la tête du groupe présidentiel, enfin de macroniste, et a donc expliqué qu'il était très maladroit de passer un accord en sous-main avec le Rassemblement National au lendemain du Front républicain, c'est-à-dire on pouvait pas d'un côté dire aux gens écoutez, il faut tous s'unir et se rassembler contre le Rassemblement national, et le lendemain, hop, magie à l'Assemblée nationale, ils ont non seulement 2 vice-présidents, mais ils ont un poste de questeur. Sauf que le RN n'a pas vu venir le coup, ils sont pas encore, aussi ils ont leur faiblesse, hein. Donc, ils n'ont pas vu venir le coup, et ils se sont fait doubler par notre ami Wauquiez qui a dit, mais écoutez, c'est très simple, on va se mettre d'accord, vous et nous, et moi, mon tarif, c'est 2 vice-présidents et un questeur, ce qu'il a obtenu. Bon. Alors après, le RN a joué, s'est dit, on va se victimiser, on va dire, regardez, les méchants, nous, on joue le jeu. Donc, c'est le fameux bulletin de vote qu'ils avaient confectionné. Où, donc,
avec Gaeté et Abo Mongoli.
Voilà, donc ils font élire, ils mettent 2, puisqu'il y a, il y a, il y a 6, il y a, il y avait 6 postes à pourvoir. Donc, ils mettent 2 noms de chez eux, donc Chenu et...
Laporte.
Ils mettent Gaeté et Abo Mongoli. Et puis ils mettent, je cherche désespérément le nom des 2 autres.
Je crois que c'était Naïma Horizon et.
Oui, voilà, c'est ça.
Et je sais plus qui.
Voilà, bon. Et donc ils font leur petit bulletin. Ils se plantent aussi sur le bulletin parce qu'ils font et confondent oui. Breton, Thierry Breton et Xavier Breton. Voilà, c'était ça le deuxième. C'était celui-là que je cherchais. Voilà, le deuxième. non du bloc présidentiel qu'il proposait. Donc, il se plante, il propose Thierry Breton, on leur fait remarquer qu'il n'y a pas de Thierry Breton à l'Assemblée nationale. Donc, il retire un nombre 150 bulletins en corrigeant le truc, ils mettent ça, bon, voilà. Et stupeur, sur les 6 noms qu'ils ont proposés, 4 sont élus et leurs 2 propositions ne passent pas. Alors, Jacobelli et Chenu sont allés devant les caméras en disant « nous, on a voulu montrer qu'on était les bons élèves et on a proposé une représentation qui soit à l'image de l'Assemblée nationale, conformément à ce que prévoit l'article 10 du règlement de l'Assemblée. Et donc, on a fait un bon geste, on a proposé des députés LFI, histoire de montrer qu'on n'était pas sectaire. Bon, ils se sont fait avoir, voilà. Donc, du coup, maintenant, ils se mettent dans une posture en disant, nous sommes le parti qui a recueilli 10 millions et demi de voix et nous n'avons aucune représentation à l'Assemblée nationale. Moi, je pense personnellement que c'est une connerie politique. C'est une victoire à la Pyrrhus. Ce truc-là leur offre une autoroute. En permanence, ils vont dire, écoutez, voyez, on n'est pas dans les instances de l'Assemblée nationale, on n'a pas voix au chapitre, on nous méprise, c'est 10 millions et demi d'électeurs qu'on méprise, ça, on va y avoir droit jusqu'à la prochaine Assemblée nationale. Je trouve dommage de leur avoir offert cette autoroute. Et je suis, en tant que républicain, je réponds à une question de quelqu'un qui disait, mais si on exclut le RN de l'arc républicain, alors pourquoi pas les exclure de l'Assemblée nationale ?
Alors, justement, il y a une question sur le chat de Sébastien là-dessus, excuse-moi de te couper. Puisqu'on considère que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain, pourquoi est-il autorisé à l'Assemblée et instrumentalisé au moment des élections ?
Je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que il ne doit pas y avoir de demi-députés. À partir du moment où un député est élu, il est élu par des électeurs. Et donc, à partir du moment où les instances de l'Assemblée nationale doivent refléter autant que possible la réalité politique de l'Assemblée nationale, moi je ne suis pas choqué qu'il y ait des vice-présidents du Rassemblement national, à condition que ce soit à juste proportion. Voilà, le tout. C'est quoi ? C'est pas donc vous savez, il y a un système de points très complexe dans lequel tout le monde se plante, où finalement, en fonction du nombre de députés que tu as un capital de points que tu choisis de dépenser en disant j'achète un vice-président, je prends un questeur, je prends un secrétaire du bureau. Voilà, c'est un peu, il y a un petit côté Monopoly. Bon, pourquoi pas ? Et ce système-là a le mérite de permettre à l'ensemble des forces politiques d'être un tant soit peu représentées dans les instances, dans la gouvernance de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'à partir du moment où on dit, le Rassemblement national, on peut considérer que son ADN n'est pas un ADN républicain, mais là, on est sur le terrain du droit, et donc ces députés ont été élus régulièrement dans le cadre d'un scrutin incontesté et incontestable. Donc, les électeurs ont décidé qu'ils voulaient voter pour ces gens-là. Ces gens-là doivent jouir des prérogatives qui sont afférentes au groupe parlementaire auquel ils appartiennent. Je pense que ça me paraît logique. Et des gens qui se félicitent, à mon avis, de « paf, on a éliminé le Rassemblement national de toutes les instances de représentation », se plantent parce qu'ils accréditent l'idée que on méprise les 10 millions et demi d'électeurs.
Voilà. Donc toi, tu aurais enlevé les 2 vice-présidents LR et tu aurais mis RN à la place, quoi.
Moi, je ne suis pas...
Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Serge Président.
Je suis pas Jupiter, hein, moi. Je... Non, mais,
ça dit Serge Président sur le chat.
mais je pense que... le Rassemblement national aurait dû être représenté dans les différentes instances. Voilà.
Et d'ailleurs, FunFan sur le chat dit « Je pense que ce n'est pas une solution que la gauche ne veuille pas discuter et méprise le Rassemblement national. Plus ils le feront, plus ils se feront passer pour des victimes et plus ils vont monter dans les intentions de vote. »
Je pense qu'il faut être clair dans l'attitude de dire, de porter un jugement politique sur... une formation politique et dire Nous pensons que l'extrême droite n'a pas rompu avec ces démons fascistes et que, je pense, on en a la confirmation régulièrement, au sein du Rassemblement national, il y a d'authentiques fascistes. Oui, 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 bien sûr, on le sait. D'authentiques antisémites, oui. D'authentiques racistes. Les 10 millions et demi d'électeurs, c'est déjà autre chose. C'est bien différent du personnel politique qui représente ces 10 millions et demi de personnes. Je pense pas que les combattre politiquement passe par leur éviction de toutes les responsabilités auxquelles ils peuvent prétendre en tant que groupe parlementaire.
D'accord, donc toi tu pointes du doigt largement des personnalités fascistes ou racistes, mais par contre les électeurs, pour toi, faut vraiment pas les pointer du doigt.
Mais je pense que ces électeurs, ils ont élu des députés. Donc ils sont en droit, ces députés, ce sont des représentants du peuple. Ces représentants du peuple doivent pouvoir jouir des prérogatives qui sont accordées à tous les représentants du peuple. Voilà. Et donc, c'est en cela que l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale, à mon avis, est très clair. Il prévoit que les instances de gouvernance reflètent ou tendent à refléter la réalité de l'Assemblée nationale.
Mais comment tu fais, par exemple, s'il y a une personnalité qui est ouvertement raciste et fasciste, bon, et qui n'est pas condamnée, bon, ça peut arriver, et que si les électeurs votent massivement pour ce député ou cette personnalité, comment on catégorise les électeurs? Tu vois? Parce qu'ils sont au courant, on l'a vu, des fois, il y avait des cas absolument dingues là sur la législative, où tu as des gens, on va dire, tu as des propos racistes, tu t'affirmes comme raciste. Et que tu es élu dans ta circonscription. Comment on catégorise les électeurs qui ont voté, par exemple, le Rassemblement national?
Non, mais si tu as des propos racistes, il y a des tribunaux pour ça, pour les sanctionner. Très simple, hein, tu poursuis des gens.
Oui, non, bien sûr, mais je parle surtout des publications, des trucs qu'on retrouve
sur les réseaux sociaux. Tu poursuis.
Et les gens qui ont des liens avec des groupuscules néo-nazis.
Non, mais c'est la justice qui doit dire ça.
Oui, oui.
C'est la justice qui doit à un moment donné trancher. Moi, je suis pour poursuivre systématiquement, et normalement, ça devrait l'être, tous les propos, toutes les publications. Il y a des lois sur la presse qui relèveraient de la glorification d'idéologies qui sont proscrites et qui appelleraient au racisme, à l'antisémitisme ou à des discriminations quelconques. Voilà, il y a un appareil législatif suffisamment fort, on n'a pas besoin d'inventer de nouvelles lois, il suffit de poursuivre, voilà. Et l'Assemblée nationale peut elle-même sanctionner, hein, on l'a vu avec Fournas, encore que il a été sanctionné pas exactement pour les propos qu'il a tenus, parce que le bureau de l'Assemblée nationale n'arrivait pas à qualifier les propos qu'il a tenus, qui étaient ambigus. Tu sais,
C'est à Carlos Bilongo.
Hein?
C'est à Carlos Bilongo, c'est ça?
Voilà. Et donc, l'autre dit, ils n'ont qu'à retourner en Afrique ou un truc comme ça. Alors, il dit, mais je parlais des bateaux, pas des gens, ouais. Voilà. Bon. Et le bureau de l'Assemblée nationale a pris la sanction, en invoquant non pas le propos, mais le tumulte généré par l'attitude du député en question. Voilà, puisque le propos pouvait être interprété de différentes manières.
Alors, question de Guillaume, on va parler encore un tout petit peu du RN. On parle beaucoup de parti républicain, mais en quoi le RN n'est pas républicain actuellement? Voilà.
Alors, faut pas confondre républicain et démocrate. Qu'est-ce qui fait que le RN n'est pas républicain? La préférence nationale. La préférence nationale qui est une qui se fonde non pas qui se fonde à la fois sur des critères ethniques, voire confessionnels, et qui est un des piliers, hein, de la politique du Rassemblement national, et qui est donc une politique d'abord d'exclusion. C'est-à-dire, ou en tout cas de discrimination. C'est ça qui fait le caractère non républicain du Rassemblement national. c'est que le projet politique du Rassemblement national est un projet qui consiste finalement à trier les Français entre eux. Donc on l'a vu au moment donné, au moment de ce débat juste avant l'élection sur les binationaux, où on nous dit bah les binationaux ils sont français mais ils sont pas tout à fait français. Voilà, bon.
Histoire de l'allégeance.
Voilà, donc la double allégeance, vous comprenez, à des postes sensibles, etc. Mais enfin bon, donc ils ont sorti les rames en nous disant mais ça concerne que 10, 20, 30 postes, etc. Bon, oui, d'accord, enfin on a bien compris la dynamique qui était à l'œuvre derrière. Et puis deuxièmement, il y a bien évidemment cette caractérisation du français qui se fait finalement par hostilité à l'étranger. Il faut savoir qu'il y a des millions de gens sur le territoire national qui sont d'origine immigrée et qui travaillent, qui vivent, qui ont pour certains la nationalité française. Je rappelle que la notion d'immigré est indépendante de la question de la nationalité. L'INSEE, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai mis au cours de mes études, je comprenais pas cette différence, mais la population immigrée, dans la population immigrée, il y a une part de la population française parce que ce sont des gens qui sont depuis récemment français. Voilà. Et donc, ils sont comptabilisés comme étant appartenant encore à la population immigrée. Mais il faut savoir qu'un pays, c'est ce sont des nationaux, puis ce sont des étrangers sur le sol national. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Madame Meloni, bien facho, hein, on est bien d'accord. En Italie, elle arrive au pouvoir, plus un seul étranger, jamais, dehors, tout le monde dehors, allez à la mer, on les jette à la mer. Tout le monde applaudit. Un an plus tard, elle demande des titres de séjour pour 450 000 étrangers. Pourquoi ? Parce que l'Italie est un pays qui vieillit, qui a besoin de main-d'œuvre, on ne trouve plus de main-d'œuvre. Donc, on va régulariser 450 000 étrangers venus d'un peu partout, d'Europe, d'Afrique, parce qu'on a besoin des étrangers. Parce qu'une économie moderne, elle fonctionne avec des nationaux et des étrangers. Et le Rassemblement national, au cœur du projet du Rassemblement national, il y a cette idée que finalement, qu'est-ce que le monde marcherait bien si on était uniquement entre Français, bien blancs, bien peignés, etc.
Bon, j'ai une question d'ailleurs par rapport aux JO. Bah, les JO, c'est quand même, tu as vu la cérémonie d'ouverture, c'est très inclusif, il y en a qui disent c'est très woke, etc. Mais est-ce que tu penses que ça va changer cette image de la France? Est-ce que ça peut affaiblir le RN et notamment sur les pensées très réactionnaires qui animent le pays depuis quelques mois?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il ne faut pas donner... Enfin, si on pense que la cérémonie d'ouverture va jouer...
Non, mais les JO en général, on accueille le monde entier, tu vois.
On accueille le monde entier, oui, c'est bien, bienvenue, voilà. Mais les gens ne sont pas dupes, ils savent qu'on accueille le monde entier, puis en même temps, derrière, il y a des intérêts commerciaux énormes, il y a une espèce de diplomatie parallèle qui s'établit également, donc les gens cernent rapidement les limites, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la performance sportive, et je crois que c'est ça que les gens applaudissent, parce qu'ils aiment bien le sport, ils applaudissent les athlètes, le message fraternel de l'olympisme, ouais, je pense qu'il vivra le temps des Jeux, et pas davantage.
Bah, et puis surtout, les guerres continuent, hein. En Palestine,
les guerres continuent, les massacres continuent, la misère continue, l'oppression continue. Donc voilà, on se retrouve la trêve olympique, ça vaut ce que ça vaut la trêve de Noël, quoi. Voilà, hein, c'est bien. Il y a le Père Noël, on reçoit des cadeaux et le lendemain on continue la guerre. C'est un peu ça les Jeux Olympiques.
On va conclure, Serge.
Je sais pas, il y a pas d'autres questions.
Ah bah, ça t'envoie, tu te fais.
Je sais plaisir. Pas, j'ai.
Parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on est en direct, je me disais.
Ah bah oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bon, on va peut-être parler un petit peu de la chaîne et de ce qu'on. Rapidement, deux petits mots sur la chaîne. On vous a dit qu'on revient fin août. Alors pourquoi fin août et pourquoi on n'a pas donné de date précise Parce que tout dépend de Monsieur Emmanuel Macron et de la nomination d'un Premier ministre. Si Lucie Casté est nommée juste après le 15 août, eh bien, je pense que je remonterai assez rapidement sur Paris pour que nous soyons opérationnels avec Maxime à partir du 20, qu'on trouve des JRI disponibles, c'est pas évident, et qu'on puisse disons accompagner les premiers pas de ce gouvernement du nouveau Front populaire ou tout autre gouvernement d'ailleurs, hein, c'est pas réservé uniquement au nouveau Front populaire. Bon, donc voilà. Parallèlement, nous sommes encore en train d'attendre la réponse pour un local dans un lieu qui est assez chouette et qui rentre dans nos tarifs, si j'ose dire. En tout cas dans notre enveloppe. J'attends la réponse, je relance l'agent immobilier qui s'occupe de la chose. On a déposé un volumineux dossier, hein, voilà. Donc j'espère que ça va marcher, qu'on va enfin pouvoir travailler de manière un petit peu plus professionnelle, voilà. Sinon à la rentrée, Antoinette Chéteau va revenir et on va travailler donc sur le tour de la question avec une jeune consoeur qui vraisemblablement fera ses premiers pas dans le prochain magazine. On vous cache pas qu'on est un peu en train de tester et la formule et les journalistes qui seront amenés à s'en occuper, donc ce sera l'occasion un peu de faire avancer tout ça. Mais tout ça est très conditionné à un enchaînement de temporalités qui sont différentes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu nébuleux, mais enfin, on revient, rassurez-vous, on sera là à la fin du mois, et même un peu avant, s'il y a un nouveau gouvernement avant. Voilà, donc ça, c'était important. Et puis, je pense qu'à un moment donné, on sera maintenant là, on sent bien qu'on est en train de passer un cap, c'est-à-dire que la chaîne doit maintenant s'ouvrir, s'étoffer. On doit être capable de vous proposer d'autres journalistes à l'antenne, comme Antoine, comme d'autres, et puis être capable surtout rapidement de vous proposer. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à vous proposer rapidement 4 contenus par semaine, 4 contenus différents qui ne soient pas que des chroniques, hein, ça peut être des reportages, ça peut être des trucs, mais que 4 soirs par semaine, vous ayez cette offre qui soit là. On aura peut-être besoin d'un petit coup de pouce financier de votre part à un moment donné, donc on fera une campagne, mais une campagne bien ciblée sur des objectifs, etc. Rassurez-vous, on vous proposera pas de faire des choses en 3D mal maîtrisées, on vous proposera des choses un petit peu plus journalistiques, on va dire. Voilà. Non, mais il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise, voilà. Je sens aujourd'hui, moi, si on est, ça fait 2 ans maintenant que Pure Politique existe, on a réussi à faire 2 choses qui me semblent importantes. La crédibilité de la chaîne est installée, et c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à nous identifier, on comprend ce qu'on fait, on comprend pourquoi on est différent des autres. Donc tout ça est bien identifié. Et deuxièmement, cette notoriété fait que bon, aujourd'hui on il y a des gens qui nous regardent pour la première fois et qui nous disent pourquoi vous en faites pas plus, quoi. Il faut qu'on réponde à cette demande, il faut qu'on soit capable de passer la seconde et passer la troisième et puis en avant sur l'autoroute, quoi. Voilà un peu l'objectif, mais tout ça, je vous le dis encore une fois, on est un peu tributaire de pas mal de paramètres. La situation politique joue aussi, mais en même temps, elle est très riche. Il y a une demande d'explication très forte. C'est parce que ça devient quand même très subtil, et ça devient d'autant plus subtil qu'il y a en permanence des libertés constitutionnelles qui sont prises. On se rend compte que la Constitution de la Ve République, il y a des cas de figure qu'elle n'avait pas prévu. Voilà. Le fait que cette assemblée puisse être bloquée, je vous cache pas que ma grosse crainte, moi, c'est que le budget ne puisse pas être voté. Qu'est-ce qui se passe si le budget n'est pas voté? Ben, c'est un cas de figure qui n'est pas prévu par la Constitution, ni par n'importe quelle jurisprudence. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'aventure. C'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Macron devrait prendre ça aussi en considération. Il y a un moment donné, il va falloir voter le budget parce que ben, sinon, les fonctionnaires, il y a un moment où on ne pourra plus les payer. Là, petit détail.
Comme à l'américaine.
Ben oui, alors il y a des expédients, il y a un précédent qui est un truc qui s'appelle le 1/12e, où on reconduit le budget de l'année précédente, mais divisé en 12, etc. Bon, enfin, c'est une usine à gaz et c'est un truc impossible à gérer. De toute manière, ça ne construit pas une politique pour un pays, c'est un expédient. Mais la question du budget, hein, encore une fois, vous ne vous y trompez pas. Le vote le plus politique qui soit, c'est le vote sur le budget. Parce que c'est là qu'on décide de ce qu'on fait de l'argent, des recettes fiscales, où est-ce qu'on est investi. Et c'est finalement l'acte le plus concret que les députés peuvent réaliser. Donc, ne vous y trompez pas. Voilà.
Il y a une dernière question, Serge, qu'on a
Oui.
oublié. Question de Théo, est-ce que tu pourrais nous parler de tes interventions sur BFM et LCI?
Mais bien sûr. Alors BFM, c'est très simple. La jeunesse de l'histoire, vous allez voir, est assez amusante. À l'Assemblée nationale, bon, on tend le micro aux personnalités qui passent, et entre deux personnalités, on papote les uns les autres, et en fonction des informations dont on dispose, on refait un peu on échafaude des scénarios, des scénarii, hein, des scénarios politiques sur ce qui peut se passer, ce qui peut être dit, etc., etc. Bon, donc on phosphore collectivement. Je ne sais pas pourquoi un jour j'ai lancé un camarade de BFM. Je lui dis, bah, écoute, il y a plein de mecs qui ont mon âge et les cheveux blancs qui passent à 22 h le soir. Hein, vous devriez m'inviter une fois comme ça. Voilà. Je dis ça vraiment un peu à moitié sur le ton de la blague, à moitié sérieusement. Et c'est comme ça que c'est mis en place le système, puisque bon, j'étais invité une première fois, puis j'étais invité une deuxième, une troisième, puis voilà. Puis ah, ça c'est mon labrador Roscoe que vous entendez.
Il est où? On veut le
Mais
voir.
il est dans le salon et là il monte la garde après les sauterelles, les papillons, les mouches, enfin ouais, une activité très importante de chien de garde. Donc on m'a dit, ben voilà, donc on a pris l'habitude de venir. Alors, un, je ne suis pas payé. Voilà, parce qu'il y en a plein qui me disent, ah, elle est allée cachetonner. Bon, alors vous seriez très étonné en apprenant que ceux qui sont payés, parce qu'il y a des journalistes, des chroniqueurs plus exactement, qui sont attachés à une émission et qui sont payés en tant que chroniqueurs, sont payés des clopinettes. Donc, de toute manière, c'est pas avec BFM qu'on fait construire une résidence secondaire, hein, rassurez-vous. Mais moi, je ne suis pas payé, ça me va très bien. Parce que comme ça, je suis libre de venir, de pas venir, de dire ce que je veux. Et si tant est qu'on me ferait une remarque, je serais libre de dire, bon, bah, oui, bah, écoutez, les gars, si ça vous plaît pas, je viens plus. Mais c'est pas le cas. Je dois vous le dire, je parle librement. Je n'ai jamais eu, mais le début d'une remarque ou quoi que ce soit, non. Et les gens de BFM sont plutôt contents de ma présence. Pourquoi? Parce qu'elle permet, comme je l'ai expliqué récemment dans la newsletter de Pure Politique, elle permet d'équilibrer un plateau. Il y a des journalistes de droite, d'extrême droite, puis bon. Il y a un journaliste, on sait qu'il n'est pas à droite et qu'il n'est pas d'extrême droite. Voilà. Disons que ça permet un peu d'équilibrer le plateau. On sait qu'il est journaliste, donc il raconte pas n'importe quoi. En tout cas, il fait l'effort d'essayer de ne pas raconter n'importe quoi. Et il est capable de développer une argumentation. Et en plus, il maîtrise les codes de l'audiovisuel. Donc, bon, c'est que du bonheur, hein, de ce point de vue-là. Ça permet d'avoir un débat. Et en face, il y a les gens que je rencontre en permanence à l'Assemblée nationale. Hein, on me dit, ah bah oui, mais bah, c'est politique, je les rencontre au salle des quatre colonnes et je leur pose exactement la même question et je développe les mêmes arguments quand je discute avec eux. Simplement, là, je le fais en direct et c'est beaucoup plus intéressant parce que là, ils sont obligés de répondre. Salle des quatre colonnes, quand Faubert arrive avec son petit micro et sa bonnette et pose la question qui fâche, ah ben non, pas le temps, je suis au téléphone, je reviens tout à l'heure, on se voit, hein, machin, bon, puis on revient jamais, voilà. Là, ils sont obligés de répondre. Donc là, Moi, j'y vais pour que la chaîne soit visible. Je vais aussi maintenant sur LCI, où on m'a invité. Alors, j'étais le premier surpris parce que LCI fait plutôt dans l'étranger, mais ils font maintenant de la politique. Et après, c'est moi qui mets les bornes. Hein. Moi, je suis assez sollicité, mais je dis pas oui à toutes les sollicitations. Quand on me demande de m'exprimer sur la sécurité des Jeux Olympiques, je sais pas faire, je sais pas quoi dire. C'est pas mon sujet. J'ai aucune compétence. Donc, on me demande des choses un petit peu bizarres. Je dis non, stop, je viens pas. C'est peut-être le sujet qui est dans l'actu, mais c'est pas mon sujet. Voilà. Donc, tout le monde le comprend et ça se passe.
Sur ces passages télé, n'hésitez pas, hein, pour tous les abonnés, les gens qui nous regardent, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez aussi, parce que nous, on fait ça pour de la visibilité, hein, pour que Pure Politique s'étende un peu sur les plateaux télé. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, on a des remarques, BFM TV, c'est très mal vu. Alors ces dernières semaines, on a aussi, et notamment sur LCI, on a des youtubeurs qui envoient des vidéos, des extraits de tes passages, et ça fait des centaines de milliers de vues.
Et c'est ça qui m'a tué, moi. C'était qu'il y a des gens qui, dans les commentaires sous les vidéos, disent « Ah, Faubert, t'as vendu ton âme au diable, t'es pourri comme les autres, machin, comment, bon, voilà. » Et à côté de ça, le gars que je ne connais absolument pas, qui reprend les extraits, deux coups de ciseaux, claque, qui fait, je sais pas, 180 000.
Il a fait j'ai regardé ce week-end, c'était 250 000 vues. Hein.
Bon, ben voilà, 250 000 vues. Alors d'abord, ce qui m'étonne, c'est que la chaîne n'ait rien dit. Donc le type, il prend quand même 5 ou 6 minutes d'extrait sans com, sans rien. Hein. Voilà, si c'est du cut, tant mieux. Mais d'ailleurs, de toute manière, ce qu'on fera, je pense, l'année prochaine, si ça se développe, c'est que on mettra les meilleurs moments sur nos réseaux sociaux, comme le font les politiques. Hein. Voilà, d'ailleurs, les moments marquants, un échange. Alors j'y vais, comprenons-nous bien, moi j'y vais en tant qu'éditorialiste, hein, sur les plateaux. C'est-à-dire, je fais pas simplement le travail de journaliste que je fais à l'Assemblée nationale où je ne pose que des questions. Là, j'avance des arguments, c'est-à-dire je fais des démonstrations et bien sûr on me répond en face, et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que ça fait partie du débat républicain, et ça ne me dérange absolument pas de faire ça avec aussi bien Thomas Porte, avec qui j'étais l'autre jour en plateau, que avec Laurent Jacobelli, avec qui j'étais en plateau juste après. Voilà. Moi, je suis dans mon rôle de journaliste, je ne cautionne personne, je suis pas là ni pour accabler les gens, ni pour les soutenir. Si, ah oui, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu aurais pu le soutenir quand même, parce que là, franchement, tu te rends compte. Non, je suis pas là pour soutenir les gens. Je suis pas le petit télégraphiste de n'importe quel parti politique. Vous connaissez mes engagements, mais je suis d'abord journaliste. Mes engagements, ça passe après. Voilà.
Merci Serge, on va s'arrêter là.
Voilà.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux, jusqu'à 1500 en direct. Et puis, bonnes vacances.
Voilà, bonnes vacances à tous. Profitez-en, reposez-vous, parce que faites de la marche, les randonnées. Je pense que ça va vous préparer pour la rentrée.
Ah oui, en espérant que vous puissiez passer de bonnes vacances et des moments agréables.
Voilà, et en sachant aussi que quand même un Français sur deux ne prend pas de vacances, ou plus exactement ne quitte pas son logement pour partir en vacances. Ne part pas en vacances, voilà. Donc, ça aussi, on ne l'oublie pas. Et de la même manière, comme je regardais quand même, juste un dernier mot, le télescopage de la campagne de la Croix-Rouge qui rappelle qu'il y a 7 millions de personnes qui, dans ce pays, ne mangent pas à leur faim, et qu'on parle de trêve olympique en même temps, je dois dire, c'était dans les écrans de pub juste avant les Jeux. Et je dois dire que ça, moi, je l'ai pris en pleine face, je ne sais pas où, mais on se dit, ouais, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui va... C'est pas possible d'appeler à la concorde, à la trêve, machin, aimons-nous tous ou rassemblons-nous tous autour du sport. Et en même temps, il y a des gens dont la préoccupation première chaque jour, c'est d'arriver à bouffer. Voilà. Sur ce, les amis,
allez, passez
bien et on se retrouve à la fin du mois.
Passez un bel été. Ciao. Salut.
Ciao.